journal, Florence Paracuellos, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. À la une ce matin, le chômage au plus bas depuis 10 ans en France. Les chiffres viennent de tomber. 8,4% de la population active inscrite à Pôle emploi. Détail dans un instant. On verra que l'embellie va sans doute se poursuivre et que cette question de l'emploi a presque disparu du débat public. Européenne J-11, Christiane Taubira à la rescousse de Place Publique et de Raphaël Glucksmann en meeting hier soir. La gueule de bois à gauche, c'est terminé, dit-elle, malgré les sondages. Et à 8h20, suite de notre quinzaine européenne avec...
Une tête de liste tous les matins au micro de France Inter. Et aujourd'hui, Florence, c'est Manon Aubry qui sera dans ce studio d'ici une vingtaine de minutes pour la France Insoumise. 01 45 24 7000, les réseaux sociaux et l'application France Inter pour
à
intervenir.
La une également, Patrick Balkany et son modeste moulin de Giverny, c'était sa défense hier au tribunal. Un enfant de 4 ans peut-être victime de l'anesthésiste de Besançon. Une gilet jaune en fauteuil roulant accusé de violence policière devant la justice aujourd'hui. Et des taxis volants pour rallier les aéroports au centre-ville. Airbus et la RATP y travaillent sérieusement.
France Inter.
Et avant de parler du chômage qui baisse en France depuis 18 mois et qui n'a jamais été aussi bas depuis 10 ans, voici l'histoire d'un plan social emblématique du début du quinquennat d'Emmanuel Macron, l'histoire des GMES, compté par le cinéaste britannique Lech Kowalski. On va tout péter, sélectionné à Cannes, à la quinzaine des réalisateurs. Son documentaire revient sur le combat de ces ouvriers de la souterraine dans la Creuse. Ils avaient menacé de faire exploser leur usine de pièces automobiles. Depuis, 150 salariés ont été licenciés, dont une quarantaine ont pris la route de Cannes. Hier soir, Maxime Deps les a rencontrés avant leur départ.
Croisette ou pas, Yann n'a pas mis bien longtemps à boucler sa valise.
Je suis pas un acteur, donc les costards, j'en ai pas. La cravate, j'aurais peur de m'étouffer. Un jean, une chemise, je suis parti.
Car c'est bien comme ils sont que les GMES comme lui et Patrick iront à Cannes, son festival où ils ne pensaient être invités un jour.
Moi je dis quelqu'un vient faire un petit film, voilà, ça passera à 23h, personne regarde. Ben là on est sur le devant de la scène, c'est bien.
Le cran, les tripes de 300 gars qui n'avaient rien à perdre, c'est ce qui a poussé Lech Kowalski à porter leur histoire à l'écran.
Ils avaient installé cette bombe et voulaient tout faire sauter. Je me suis dit que cette histoire, je voulais la raconter.
Le réalisateur qui nourrit un regret, les GMES n'auront pas droit à la montée des marches.
Imaginez ces ouvriers arpenter le tapis rouge. Ça aurait été super, mais on fera autre chose, c'est certain.
Quelque chose d'autre, mais quoi? Les GMES, là-dessus, entretiennent le flou.
Ce qu'on espère, c'est qu'il fera beau pour continuer à dire non au gouvernement, à la casse de l'emploi qui fait depuis nombreuses années, que les constructeurs arrêtent de faire fabriquer leurs bagnoles à l'étranger et laissent un peu de boulot sur le sol français.
C'est bien d'aller à Cannes, d'aller voir les paillettes et puis de discuter avec les gens en leur disant « mais la vraie vie... C'est comme ça la vraie vie. »
Cette vie, la leur, les salariés de la souterraine la subissent depuis 2 ans maintenant. Aujourd'hui, ils en seront plus que jamais acteurs, au propre comme au figuré. Entre Tarantino et DiCaprio, leur espoir un peu fou sera de se glisser sur la photo.
Mais la photo GMES n'est pas celle de l'emploi en France. Le chômage baisse depuis plusieurs mois, seulement de 0,1 point au premier trimestre 2019. Ce sont les chiffres que viennent de donner l'INSEE. Mais le taux de chômage n'a jamais été aussi bas depuis 10 ans, Fabien Cazot.
Un taux de chômage de 8,7% au sens du Bureau international du travail, Florence, en chiffres qui comptabilise précisément ceux qui n'ont pas travaillé au moins une heure pendant le premier trimestre 2019 et qui sont disponibles pour prendre un emploi dans les 15 jours. Les critères diffèrent donc un peu de ceux de Pôle emploi. Ce qui est sûr, tous les indicateurs le disent, c'est que le chômage est en décrue modeste, certes moins 0,1%, légère baisse ou quasi-stabilité selon ce qu'on veut retenir, mais il y a bien une décrue qui se poursuit dans les tranches d'âge au cœur de la population active, les 25-49 ans. C'est moins évident chez les jeunes en ce début d'année et pour les seniors les plus de 50 ans, pour lesquels le taux de chômage est en légère progression. La bonne nouvelle ce matin, c'est peut-être la qualité des emplois sur le marché du travail, avec une progression du taux d'emploi à temps plein, des embauches qui progressent en CDI, et ce qu'on appelle le sous-emploi, vous savez, ces temps partiels subis, faute de mieux, en nette diminution au premier trimestre 2019.
Et Fabien, le chômage devrait continue à baisser cette année. Ça faisait 10 ans là aussi que les perspectives d'embauche n'avaient pas été aussi fortes.
Oui, c'est ce que nous dit Pôle emploi. Les intentions d'embauche sont au plus haut depuis 10 ans, plus 15% par rapport à l'année dernière. 350 000 projets de recrutement supplémentaires. Les secteurs les plus concernés sont les services à la personne, la construction, le transport routier, la restauration, mais aussi les ingénieurs. Le sujet maintenant qu'anticipent les employeurs dans ces métiers, ce sont les difficultés de recrutement qui pourraient se poser dans les prochains mois.
Fabien Cazot, merci. Est-ce que c'est parce que ça va mieux? La question du chômage ne semble plus prioritaire dans les préoccupations des Français. On en a très peu parlé lors du grand débat national et ça n'est pas un sujet de la campagne des européennes, comme l'a dit Brice Teinturier, directeur général délégué de l'Institut Ipsos, à Karine Bécard.
Il y a encore 4 ou 5 ans, on avait une préoccupation massive et dominante qui était le chômage. J'ai envie de dire, tout le reste venait ensuite. Ce n'est plus le cas. Nous avons aujourd'hui le chômage en troisième ou en quatrième rang des préoccupations des Français et souvent au même niveau ou même derrière les inégalités, l'environnement ou le pouvoir d'achat. Ça change tout. Ça change vraiment tout dans un pays qui a vécu pendant 35 ans avec ce thème de manière archi-dominante. Et ça change tout aussi au niveau électoral puisque nous assistons là et de manière caricaturale peut-être à la première campagne électorale depuis 40 ans où l'on ne parle pas du chômage, ou en tous les cas, très peu du chômage.
8h07, la campagne, Florence, animée par un débat et deux meetings hier soir.
Débat à couteau tiré entre les deux têtes de liste qui se disputent la première place dans les sondages. Nathalie Loiseau face à Jordan Bardella sur BFM TV. Loin derrière, Raphaël Glucksmann et Place Publique, pas sûr de passer les 5% pour envoyer des députés au Parlement européen. Alors les anciens ministres de François Hollande viennent prêter main forte. Christiane Taubira hier à Rouen a scandé le réveil de la gauche, meeting suivi par Laurence Perron.
Deux femmes et un homme à la rescousse du soldat Glucksmann, sa camarade, l'écologiste féministe Claire Nouvian, récemment grossièrement malmenée par un journaliste sur le plateau de CNews.
Que faisons-nous pour protéger la parole des femmes courageuses dans l'espace politique? On les laisse être traitées de folles, d'hystériques, de connes, de putes, de salopes, de singes? Parce qu'elles osent se battre.
Un homme, le patron du PS, Olivier Faure, qui a trouvé dans cette campagne une toute nouvelle pugnacité.
Je devrais dire, waouh, quand même, ils exagèrent un peu là. On n'a pas fait que des conneries. On a fait aussi des trucs formidables. François, si tu m'entends, prends ce que je viens de dire comme un hommage aussi à ce que tu as pu faire pendant 5 ans.
Enfin, le renfort de Christiane Taubira, qui prend d'assaut la tribune avec un texte d'apocalypse, le cataclysme de Damoclès de Gabriel Garcia Marquez, avant d'attaquer la campagne binaire, dit-elle, d'Emmanuel Macron.
Il faut mettre un terme à cette esbroufe binaire qui prétend que le jeu se déroule entre des progressistes qui s'appellent ainsi eux-mêmes, sans nous définir ce qu'est le progrès, et des nationalistes fourre-tout.
Et elle envoie...
Proclamons à la face de tous que la gueule de bois, c'est fini.
Avant de conclure par des mots de René Char, et oui, sinon ce ne serait pas du Taubira.
Et de cette soirée de campagne, on retiendra également le grand meeting parisien des Républicains au Palais des Congrès, devant 3700 personnes, Laurent Wauquiez et Valérie Pécresse autour de François-Xavier Bellamy, ou l'image d'une droite unie derrière son candidat. Feu vert du Sénat à l'instruction obligatoire dès 3 ans, voté à l'unanimité hier soir. Cet abaissement de 6 à 3 ans est l'article le plus important de la loi sur l'école, selon le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer. Intarissable Patrick Balkany devant le tribunal correctionnel de Paris hier, toujours sans sa femme qui reste hospitalisée, poursuivie pour fraude fiscale et corruption. Le maire de Levallois est longuement revenu sur son histoire familiale, sur la fortune du couple, héritage de leurs parents respectifs, grâce à laquelle ils ont bien vécu, dit-il, mais dans des propriétés, selon lui, largement surévaluées par le fisc, comme celle de Giverny dans l'Eure, Sarah Guibaudot.
On était resté sur l'image du moulin de Giverny, ses 11 chambres, 9 salles de bain et ses billets qui traînent partout, selon les employés, dans la coiffeuse de madame, le dressing de monsieur, des billets de 500 euros sortis du costume avant le pressing ou échangés au supermarché par une caissière éberluée. Les billets, le père de Patrick Balkany, rescapé d'Auschwitz, en aurait laissé beaucoup, des lingots d'or aussi. Héritage d'une famille qui a réussi et d'une autre époque, sans carte de crédit. Je ne crois pas que beaucoup de Français aient déclaré leur matelas, fait Patrick Balkany. Pour lui, la maison n'est pas si grande, sinon on aurait fait un hôtel. La piscine est à refaire. Le cours de tennis, il ressemble à un champ. 4 millions d'euros estimés par le fisc. C'est complètement fou. Vous avez des centaines de Japonais qui viennent voir le jardin de Monet à côté, mais ce ne sont pas eux qui vont l'acheter. Les Balkany ne pensaient donc pas devoir payer l'ISF jusqu'à être rattrapés par le fisc. Pourquoi faire soudain une déclaration en 2015, demande l'avocat du Trésor public. Quand on en fait une, vous n'êtes pas content. Quand on n'en fait pas non plus, tonne le prévenu de sa voix grave. Ça, c'est bien l'administration fiscale.
Sarah Guibaudot, le tribunal administratif de Paris rejette le recours en urgence des parents de Vincent Lambert. Ils demandaient la suspension de la procédure d'arrêt des soins de leur fils, programmée par son médecin traitant à partir de lundi. Tous les recours sont désormais épuisés, selon l'avocate du neveu de Vincent Lambert, qui demande depuis des années qu'on arrête de s'obstiner à maintenir son oncle en vie, alors qu'il est dans un état végétatif depuis 2008.
Il est 8h11, la garde à vue de l'anesthésiste de Besançon, Florence, prolongée jusqu'à ce matin.
Déjà mis en examen pour 7 empoisonnements, ce médecin soupçonné d'avoir attenté à la vie de ses patients pour pouvoir ensuite les réanimer est désormais interrogé sur 50 autres cas, dont celui d'un petit garçon de 4 ans dont l'opération des amygdales a failli tourner au drame, comme le raconte maître Jean-Michel Vernier, l'avocat de ses parents qui ont saisi la justice.
Ce petit Teddy qui a 4 ans est accompagné par ses parents pour subir une opération des amygdales et précédemment il a fait l'objet d'une opération des végétations par le même chirurgien. Tout s'est bien passé. Malheureusement, ça ne va pas durer. Il arrive à 13h27 au bloc opératoire. Il va la présenter à 13h40 un premier arrêt cardiaque qui va amener à un premier massage cardiaque et à l'arrivée, une minute plus tard, du docteur Péchier qui va prendre la suite concernant ce massage cardiaque qui va amener à une première réanimation de ce petit bout de chou et puis malheureusement un second arrêt cardiaque qui va faire lui aussi l'objet d'un traitement avec toute l'équipe médicale, mais essentiellement par le docteur Péchier, qui va amener effectivement à une rémission. Et l'enfant sera conduit, après avoir été réanimé, à 14h08 au CHU de Besançon.
Maître Jean-Michel Vernier au micro de Dimitri Imbert de France Bleu Besançon. Le procureur de la République de Besançon s'exprimera ce soir sur cette affaire. Elle comparaîtra aujourd'hui devant le tribunal de Toulouse, une gilet jaune accusée de violence contre la police pendant une manifestation. Cette femme est handicapée en fauteuil roulant, Alain Gastal.
C'est un peu la passionnariat des gilets jaunes et des handicapés à son actif ces derniers mois. Et toujours en fauteuil roulant, une brève intrusion sur les pistes de l'aéroport de Blagnac, trafic interrompu durant 3 quarts d'heure, ou encore le blocage d'un convoi nocturne transportant une aile d'Airbus A380. Mais c'est pour d'autres faits intervenus lors d'un samedi de manif qu'elle comparait en correctionnel, notamment une entrave à un véhicule de secours.
On me reproche qu'il est assez marrant d'avoir entravé un véhicule de secours. Et devinez ce que c'est que ce véhicule de secours. C'est le canon en haut qui voulait juste arroser des manifestants qui n'avaient aucune intention d'éteindre aucun incendie. Donc c'est totalement scandaleux, des accusations fantaisistes et destinées uniquement à me faire taire.
Odile Morin est également accusée de violence sur les forces de l'ordre avec arme par destination. L'arme en question, c'est son fauteuil qui aurait fait tomber 2 policiers.
Ils considèrent que mon fauteuil est une arme, et le problème, c'est qu'il va falloir qu'ils forment leurs agents à l'utilisation de cette arme. Parce que tant que la police s'amusera à toucher mon joystick, le manipulateur de mon fauteuil, ils me mettront en danger, ils se mettront en danger eux aussi.
Odile estime en effet que ce sont les policiers qui, en tentant de manipuler son engin pour la faire fuir, l'ont envoyé tout droit dans un camion. Elle a été légèrement blessée. En revanche, elle reconnaît les insultes salées adressées à une commissaire de police, mais a depuis retiré ses propos de sa page Facebook. Toulouse, Alain Gastal, France Inter.
À l'étranger, une marée humaine à Rio hier soir et dans les grandes villes du Brésil. Des centaines de milliers de profs et d'étudiants contre les coupes dans le budget des universités et des bourses de recherche. Depuis son arrivée au pouvoir, Jair Bolsonaro n'a cessé de faire la chasse au marxisme culturel, ce sont ses mots, et à l'endoctrinement gauchiste des élèves dans les salles de classe. Et puis un nuage de pollution plane sur Mexico. La ville est en alerte depuis 5 jours et aujourd'hui les écoles seront fermées, les gros champs suspendu. L'habituelle pollution de la ville est décuplée par des incendies à ses portes.
Et à 8h14, un moyen rêvé, Florence, de se déplacer sans polluer.
Et sans se demander si on arrivera à l'heure. Le taxi volant n'est plus tout à fait de la science-fiction. La RATP et Airbus y travaillent sérieusement, figurez-vous. Des prototypes ont été réalisés, à mi-chemin entre le drone et l'hélicoptère pour 4 personnes. Manuel Ruffez, on parle de fluidifier les transports, tout simplement.
Du centre de Paris rejoindre un aéroport, pourquoi pas, ou le site touristique du château de Versailles, ou d'un aéroport se diriger vers un centre d'affaires, et tout ça en volant.
Bah, c'est de la science-fiction qui est en train de devenir réalité.
Mathieu Dunant est le directeur de l'innovation à la RATP. Et dans toute la palette possible de solutions de mobilité, la RATP imagine bien déployer un jour ses véhicules volants. Des études de faisabilité sont en cours.
Comment est-ce qu'on peut utiliser des infrastructures existantes? Je pense par exemple à une gare de RER pour lui adjoindre une capacité de ce qu'on appelle le vertiport, c'est-à-dire l'endroit qui va pouvoir accueillir ces taxis volants. Ça, c'est un vrai sujet d'étude de faisabilité sur lequel on travaille en ce moment. Donc vous voyez, on travaille sur chacune des briques élémentaires et on peut imaginer que la solution complète sera prête dans un horizon de temps d'environ 5 ans.
Et Airbus, de son côté, développe ses prototypes.
Ça ressemble à un mélange entre un hélicoptère et un petit avion, mais surtout, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est entièrement électrique, donc c'est évidemment totalement propre de façon énergétique. Et puis c'est aussi une nouvelle expérience du voyage parce que vous êtes à des altitudes évidemment plus basses, donc c'est aussi une formidable façon de redécouvrir sa ville.
Ça ne remplacera pas évidemment le métro ou le RER, mais c'est un complément écolo, rapide, une façon d'imaginer comment optimiser les déplacements en ville.
Enfin, la Gazette de Cannes, où vous vous trouverez demain Nicolas Elton John et Ken Loach sur le tapis rouge. Ce soir, le premier pour le biopic de sa vie, Rocketman. Le second, vétéran Ken Loach, dans la course officielle, contrairement à Rocketman qui est hors compétition. Ken Loach, lui, dans la compétition avec Sorry We Missed You.
Merci Florence Paracuelos.